dans la réalité de l'intérieur. Et voici quelle est la différence. L'universel réel, c'est l'unité humaine, préservant, donnant place à chaque manière d'être homme, les familles de la terre, selon l'expression biblique de la bénédiction à Abraham, Mishperot à Adam. Alors que l'impérialisme, c'est une nation considérée qui, à la recherche de ce rêve de l'universel, va finir par tendre à imposer sa manière d'être aux autres qu'elle annexe et qu'elle, comment dit-on en français, qu'elle colonise. Oui, je suis intimement persuadé de cela. D'une part, qu'à l'échelle individuelle, n'importe quel homme de n'importe quelle nation peut être le point de départ d'un rêve de l'universel absolument authentique. Et que, lorsque, à tour de rôle, chaque nation, pour des raisons de développement économique et intellectuel, de progrès, c'est la figure de proue, le premier de cordée de l'humanité de chaque temps, reprend en charge ce rêve de l'universel, ça a été une fois le cas de la France d'ailleurs, à la Révolution française, le rêve de l'universel est radicalement authentique. C'est sa réalité qui échoue, c'est sa réalisation qui échoue, parce que le véhicule humain, le véhicule anthropologique est par définition spécifique, spécial. Alors que par son âme, toute société peut rêver de l'universel humain authentique et concret et de bonne foi, dans sa politique, elle fonde toujours et sans exception un impérialisme. Je pense que c'était un des flashs auxquels avait fait allusion M. Dufour tout à l'heure. Et nous verrons que selon l'enseignement du récit biblique, il n'y a que le cas particulier de l'identité d'Abraham l'Hébreu qui peut être le point de départ d'une messianité de l'universel authentique. Et la stratégie divine qui joue à travers ce récit de l'action providentielle qui suscite Abraham comme point de départ de la messianité concrète, cette stratégie est radicalement différente de ce qu'a essayé, y compris la chrétienté et l'islam, à ce sujet. Je voudrais revenir sur une analyse que le grand rabbin Jaïs a donnée au monde au moment, et qui m'a beaucoup éclairé, au moment de la nomination, je crois qu'il faut dire, de l'archevêque de Paris. Je pense qu'il y avait là une lettre assez passionnée, mais très claire et très précise. Je ne me souviens plus de la date du journal, mais ça peut se retrouver. Une phrase en particulier m'a beaucoup frappé. C'est la différence entre une religion universaliste, pour prendre le problème au niveau théologique, et une religion universelle. Une religion universaliste, et c'est, selon le grand rabbin Jaïs, et la vérité, et selon la vérité, le cas du judaïsme, c'est une religion de reconstruction de l'unité humaine où chacun a sa place, au bénéfice d'un certain nombre de règles communes qui sont de l'ordre de la moralité et non pas de la spiritualité, de la philosophie ou de la théologie. Il ne s'agit pas des croyances et des comportements. Et cela, là, il y a religion universaliste, c'est-à-dire que le salut est possible pour tout l'homme, pour tout homme. Alors qu'une religion universelle est une religion qui propose un modèle unique à toutes les manières d'être homme différentes. Et là, le grand rabbin Jaïs rangeait le cas de la chrétienté. Effectivement, la chrétienté se présente comme religion universelle, alors que le judaïsme se présente comme religion universaliste. C'est ce cas particulier de la conception de l'universel selon Abraham, qui est radicalement à part de toutes les tentatives que l'histoire nous montre lorsqu'elles ont pour point de départ telle ou telle nation considérée. Et je voudrais revenir sur ce point. Et c'est pas du tout simplement par méthode. Je suis profondément persuadé de cela. Qu'à l'échelle individuelle, ce que nous appelons les chassidés ou motarolam, les juges des nations, à l'échelle individuelle, tous les hommes, en dehors du peuple d'Israël, sont capables de penser authentiquement le rêve de l'universel et d'y adhérer. Mais qu'au niveau de leur société, étant donné que la manière d'être homme est très spécifique, très spécialisée dans le langage évolutionniste, si vous voulez, alors il n'y a pas de véhicule concret qui puisse incarner dans l'histoire, au niveau des sociétés politiques, ce rêve authentique de l'universel. Et c'est pourquoi, inévitablement et sans aucune exception, le rêve de l'universel bascule dans la réalité de l'impérialisme. Et c'est face à cet échec permanent qui a derrière lui, si vous voulez, le type d'identité Nimrod, face à cet échec permanent que va être suscité l'identité d'Abraham l'Hébreu. Une manière d'être homme radicalement autre que les différentes nations. Je ne sais pas si je suis arrivé à faire entendre en français cette idée hébraïque un peu difficile à exprimer et qui s'entend comme inhabituelle, tout simplement parce qu'à travers le temps, ce principe, qui est un principe traditionnel connu de tous les tenants de la tradition juive, a été finalement inversé dans les traductions du langage, où on a fini par avoir tendance à considérer la nation hébreu qu'a fondée Abraham, à travers cette sélection d'identité où il fallait évacuer les Corses Aram, eh bien, comme une parmi les nations. Or, jamais le texte de la Bible n'en a parlé à ce niveau-là. Il y a les nations, toutes les nations, qui sont le résultat de l'éclatement de l'unité humaine perdue à Babel, et il y a d'autre part, radicalement autre part, l'identité hébraïque porteur, si vous voulez, du rêve de l'universel, mais avec une stratégie de messianité qu'on ne peut trouver par définition dans aucune autre nation. Et voilà ce qui handicape, d'une certaine manière, la tentative de la chrétienté ou la tentative de l'islam. Ce que j'ai dit tout à l'heure de la chrétienté en citant le rabbin Jaïs, vous comprenez très bien que, en transposant dans un autre registre, c'est exactement la même chose pour l'islam. Où il y a aussi un rêve de l'universel, mais à partir d'une parmi les nations données qui impose sa manière d'être aux autres. Et c'est vrai, non seulement de ces deux dimensions théologiques à leur base, de la chrétienté et de l'islam, mais de toutes les tentatives politiques ou philosophiques d'un universel qui finalement s'impose au niveau d'un impérialisme. Il reste vrai qu'à l'échelle individuelle, les chassidés ou monde à Orlam ne font pas partie de cet échec. Les juges des nations, à l'échelle individuelle, entendent, si vous voulez, ce message d'Abraham, suivant l'intitulé de notre problème. J'espère que ceci a été suffisamment clair, et c'est pourquoi l'apparition d'Abraham est le signe d'une fin de civilisation. C'est-à-dire le fait que l'hébreu sort de la coquille de l'araméen, c'est le commencement de l'histoire d'Abraham, si on peut l'exprimer ainsi, c'est le signe de la fin de la civilisation d'Ur-Kasdim. Et d'ailleurs, le Midrash, avec une espèce de lucidité impitoyable, nous actualise notre propre histoire. Parce que, qui était Abraham, nous dit le Midrash, celui, vous m'excuserez cette espèce d'anachronisme, mais la réalité n'était malheureusement pas anachronique, c'était celui qui était le rescapé des fours crématoires de son temps. Et en effet, le Midrash nous montre Abraham jeté dans la fournaise, vous vous rappelez de ce Midrash, et sauvé de la fournaise, et c'est là que commence l'apparition de l'identité hébraïque, cela sonne la fin de la civilisation de Kasdim. D'une certaine manière, nous sommes la génération d'Abraham. Et de nouveau le même processus apparaît, le même, je ne sais pas comment on peut dire, le mécanisme d'engendrement d'identité apparaît, où Abraham l'araméen est en train de redevenir Abraham l'hébreu, et c'était le signe de l'échec d'une de ces civilisations qui avait un projet de l'universel, mais qui avait échoué au niveau d'un impérialisme totalitaire. Je voudrais faire entendre deux choses. C'est que, tout en laissant provisoirement de côté le niveau théologique, et en insistant surtout au niveau moral, précisément que la clause du passage de l'araméen à l'hébreu a été l'accès à la conscience morale, et simultanément en parlant un peu de Nimrod. Je crois qu'on peut dire, d'une certaine manière, que l'expérience de Nimrod et celle d'Abraham sont existentiellement très analogues. Il y a tant chez Abraham que chez Nimrod, dans la manière dont le Midrash nous en parle, il y a une prise de conscience d'une sorte d'anormalité du monde, et surtout d'anormalité du monde humain, une sorte de déception de l'état du monde. Mais la conséquence de cette expérience existentielle de déception est pour Nimrod une révolte contre l'idée d'un créateur qui nous aurait créé un tel monde, alors que la conséquence chez Abraham, c'est toujours une révolte, mais contre l'état du monde, dévoyé, dévié du projet du créateur, et avec l'objectif de se mettre au service de ce projet du Créateur. Est-ce que ça a été suffisamment clair? Je veux dire que le point de départ existentiel est très analogue. Voilà. Et Nimrod fonde une civilisation impérialiste totalitaire, alors qu'Abraham veut fonder la messianité, parce que la clause différentielle, c'est la notion de la conscience morale comme véhicule absolu du salut dans l'histoire. Et je crois avoir suffisamment indiqué, mais si c'est nécessaire, il faudra le répéter, jusqu'à ce que ce soit suffisamment clair, que c'est un cas particulier dans l'histoire des civilisations, que c'est la conscience morale en tant que conscience morale qui est la conscience religieuse elle-même, qui est la conscience du sens de la destinée de l'histoire humaine elle-même. Et même s'il y a une sorte de phénomène d'imitation de langage, d'imitation sémantique, il y a répétition de ces formules hébraïques dans d'autres traditions fût-elles d'origine abrahamique, le fondement même de cette différence d'identité est radicalement autre au niveau du rôle assigné à la conscience morale dans l'économie du salut dans l'histoire. Et j'en arrive donc à la deuxième notion. Alors, je pourrais vous citer un certain nombre de références, mais je crois qu'il sera plus aisé pour nous de suivre l'analyse des notions elles-mêmes. Avec l'identité d'Abraham, se produit un phénomène dans le vocabulaire du récit biblique extrêmement frappant, que je voudrais rappeler très brièvement. La manière dont le récit biblique il développe son récit de l'histoire humaine est très caractéristique. Elle cherche l'être frère. On pourrait l'être capable d'être frère. On pourrait, à un certain niveau de lecture, intituler la Bible, enfin surtout le Pentateuque, les récits historiques du Pentateuque, par l'expression « recherche en fraternité », un peu comme on dit « recherche en paternité ». On cherche qui est capable d'être frère. Et c'est par la manière d'être homme capable de fraternité, dans le sens strict transitif du terme, capable d'être frère, que va passer la ligne de l'alliance contractée entre le Créateur et la créature, et que va émerger l'identité d'Israël. Et en effet, le récit historique de la société humaine commence avec la scène importante, focale dans tout le récit biblique, du meurtre de Abel par son frère Caïn. Incapacité congénitale de notre manière d'exister, les hommes, incapacité de résoudre le problème de la fraternité, le problème de l'altérité, comme on a l'habitude de dire en termes philosophiques. Dès qu'il y a deux frères, ils sont jumeaux, mais l'un du l'autre. Voilà l'essentiel du récit de l'histoire humaine à sa racine, selon la Bible. Et alors, lorsque, on s'aperçoit d'une chose importante, lorsque Caïn a tué son frère, le mot de frère disparaît du vocabulaire biblique, et il ne réapparaît qu'avec Abraham. Ferez vous-même l'expérience de cette lecture, dès qu'Abraham apparaît dans le texte, le mot de frère et de sœur nous est donné avec profusion, avec prodigalité. La capacité de l'identité être frère apparaît avec Abraham. Alors elle est accompagnée par une capacité formelle d'être frère très analogue, qui est celle de Lot. Et on s'aperçoit que finalement, il y aura séparation de ces deux identités. D'une certaine manière, je dirais, Lot était un Abraham possible. Et voilà qu'il va à une lignée de l'échec, parce que il a la capacité existentielle de l'être frère, mais dans l'immoralité, alors que la capacité d'être frère d'Abraham se cherche dans l'option de la moralité. Et voici comment, par un détail apparemment bénin, comment dit-on cela, on dit comme cela, la Torah nous raconte cette séparation entre Lot et Abraham. Il y a eu une querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. C'est important d'entendre tous les mots. Ces hommes-là sont capables d'être des bergers. Et la fonction du berger dans le vocabulaire biblique, c'est un peu celle du pasteur, comme disent les protestants, si j'ose dire, c'est-à-dire celui qui s'occupe des autres. Et donc, c'est la capacité de fraternité, c'est l'identité de fraternité. Et donc, il y a une querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Et l'objet de la querelle était que les bergers de Lot faisaient paître leurs troupeaux dans des champs qui ne leur appartenaient pas. Un critère moral qui est l'objet de cette querelle. Et finalement, à travers la prise de conscience de cette différence radicale, malgré l'analogie très grande d'un point de vue formel entre l'identité Abraham, l'identité Lot, eh bien, vous remarquerez dans le récit biblique, tout ce que fait Abraham, Lot le fait aussi. Mais dans une sorte de caricature, une sorte d'ombre portée de la lumière qu'est Abraham. Abraham est hospitalier dans la pureté. Lot est hospitalier dans l'impureté. Vous vous rappelez de la scène à Sodome et Gomorre. Et alors là, la séparation est radicale. On reste frères, mais on ne peut plus être ensemble, parce qu'il y a confusion de deux projets formellement très analogues, la capacité de fraternité, mais séparation sur le principe radical de la conscience morale. Et c'est cela qui nous fait comprendre que toutes les approximations d'identité, finalement destinées à s'instaurer en rivalité, qui accompagnent l'identité Abraham, c'est-à-dire l'identité d'Israël à son point d'émergence d'origine, mais il faudra trois générations pour que Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, soit nommé Israël, et qu'à posteriori de Jacob, Isaac et Abraham font partie d'Israël. Abraham est, comme nous allons le voir dans la fin de cette deuxième analyse, que le commencement de l'identité d'Israël. Et c'est à posteriori de Jacob qu'Abraham, comme Isaac, feront partie d'Israël. Eh bien, la grande différence, la grande séparation, c'est évidemment le critère de la moralité. Il y a quelques mois, je me trouvais à Paris pour un congrès interreligieux, et puis de l'ensemble des religions du monde, enfin, presque toutes étaient là, et puis quelqu'un a fait la remarque dans la salle, c'est que seuls les monothéistes parlaient aussi de moralité, alors que toutes les autres traditions religieuses parlent de religion sans jamais faire allusion à la moralité, comme voie du salut. Mais à ce moment-là, je suis intervenu en tant que juif, parmi les trois monothéismes classiques, le chrétien, l'islam, le musulman et le juif, pour dire, et cependant, cela est vrai que dans les traditions monothéistes, la clause de la religiosité, c'est la moralité, mais la place de la conscience morale change radicalement en dehors de l'identité hébraïque. De cela, je suppose que nous aurons à nous expliquer dans les conférences du reste de la semaine. Alors, à partir de ce postulat, en particulier, je voudrais vous donner une référence. C'est à un certain moment, la Torah nous raconte que Dieu se révèle à Abraham après qu'il se soit séparé de Lot. Et le Midrash nous dit, tant que Lot était avec lui, la révélation était empêchée. Et il y avait cependant un verset précédent où on nous avait dit que Dieu s'était révélé à Abraham alors que Lot était avec lui. Et Rashi cite le Midrash avec une lucidité très précise en nous disant, en ce temps-là, Lot était encore cachère. Vous savez ce que ça veut dire en français, cachère. Je ne sais pas comment traduire ça en hébreu. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Enfin, était convenable, si j'ose dire. Et puis, il aurait pu être un Abraham, mais il s'est disqualifié en prenant un chemin qui le détournait de la moralité. Et vous voyez pourquoi c'est la proximité la plus grande de l'identité d'Abraham qui va devenir en réalité l'identité humaine la plus loin. De l'autre vont sortir Moab et Amon, vous vous rappelez de cela? Après cette fameuse scène, une sorte de messianité de l'ombre, et où les filles de Lot, croyant que seule leur famille était restée vivante après la destruction de Sodome et de Gomorre, pour sauver l'humanité, essayent d'avoir une descendance, ont une descendance, avec leur propre père. Il y a là une initiative qui formellement est messianique, mais dans l'impureté. Eh bien, j'aborde le dernier point de cette analyse au niveau du projet moral. Et pour indiquer comment cette capacité anthropologique d'Abraham l'hébreu de l'être frère porte en elle, en germe, l'accès à la loi morale comme étant véhicule du salut dans l'histoire. Et vous retrouvez là, d'ailleurs, les grandes préoccupations, je n'ai pas par hasard, des nouveaux philosophes, qu'a cité M. Dufour tout à l'heure, tout le débat étant entre le lien entre le monothéisme et la moralité, et la loi morale. Là, nous avons une contestation avec le christianisme, en particulier, ça se retrouve d'ailleurs aussi dans l'islam, qui oppose la foi d'Abraham à la loi de Moïse. Et je voudrais essayer de montrer très rapidement qu'il n'y a jamais eu d'autre projet de l'identité de la foi d'Abraham que de mener à la loi de Moïse. Eh bien voilà de quoi il s'agit. Je disais tout à l'heure qu'Abraham est le commencement de l'identité Israël. Il nous faut de nouveau découvrir avec étonnement, nous habituer à nous étonner, que l'identité Israël ne commence pas à partir d'un personnage fondateur, mais de trois. Il y a trois justes à l'origine de l'identité d'Israël, et dans un ordre bien précis. Ces trois tzadikim, ces trois justes, sont des justes de valeurs morales différentes. Et ce qu'il faut apprendre, c'est que ces trois valeurs morales sont nécessaires pour que la conscience morale ressurgisse au sein de l'identité humaine. Quel est le problème de la moralité? Celui dont précisément nous parlait le récit biblique au niveau de l'échec primordial, Caïn tuant Abel. C'est la relation des sujets humains entre eux en tant que fait social. Or, cette relation des sujets humains entre eux, pour être pacifique, réclame deux vertus de base, toutes deux absolument vertus, authentiques, mais absolument contradictoires et exclusives l'une de l'autre. Et c'est pourquoi cela ne pouvait pas être à partir d'un seul type de juste que l'identité morale authentique soit fondée et créée. Voilà de quoi il s'agit, je vous donnerai d'ailleurs d'abord les termes hébraïques. Selon la tradition juive, en ce qui s'appuie sur les versets de la Bible, à ce sujet, comme en d'autres, la vertu de ce qui fait qu'Abraham était injuste, c'est la vertu de charité. Et cette vertu de charité doit s'entendre exactement dans le sens que ce terme a en français, et sans que nous ayons à être gênés par aucun problème théologique vis-à-vis de la notion de la charité chrétienne. La charité était la charité, et on peut l'entendre comme les chrétiens la définissent. Et j'essaierai d'expliquer pourquoi tout à l'heure. Cette vertu de charité consiste à faire passer l'autre avant moi, tout simplement parce qu'il est l'autre. C'est ça la charité. Et la charité authentique, c'est précisément d'attribuer charité à autrui, même et surtout lorsqu'il ne le mérite pas. Parce que s'il le méritait, ce ne serait pas de la charité, ce ne serait que justice. Et donc, la vertu de charité, c'est l'autre avant moi. Et je voudrais faire entendre que c'est une vertu absolument authentique, et absolument authentiquement abrahamique et hébraïque. Abraham a été le juste de la charité. Mais Abraham n'est pas Israël, pas encore. Parce qu'on entend bien que la société humaine ne peut pas être basée sur cette vertu exclusive. Tout simplement parce que la charité ainsi entendue, c'est l'alibi, risque d'être l'alibi de toutes les fautes, de tous les crimes. La charité protège le criminel, lorsque la charité est exclusive comme principe de la constitution du fait social. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est là que nous avons cette fameuse scène de l'histoire d'Abraham, où Abraham discute avec Dieu pour le sort de Sodome et de Gomorre. Et j'ai l'impression souvent qu'on lit cette phrase, sans se rendre, cet épisode, sans se rendre compte de ce que la Torah veut nous enseigner ici, et on y entend le contraire. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Que Abraham, le juste, l'homme de la charité, plaide pied à pied pour le salut de qui? Des assassins de Sodome et de Gomorrhe. Je vais essayer de vous faire entendre l'étrangeté d'une telle conduite. Et Dieu lui donne une leçon de justice en lui démontrant qu'il n'y a pas suffisamment de raisons pour sauver Sodome et Gomorrhe. Mais ce que je veux faire entendre, c'est cela. Et on s'y trompe très souvent. Et lorsque la charité est seule, lorsque une vertu, et je parlerai des autres vertus indispensables tout à l'heure, lorsqu'une vertu est exclusive, alors il n'y a pas encore conscience morale authentique. Mais cela n'empêche que cette vertu comme telle est absolument authentique. Mais vous voyez, la charité seule, finalement, protège le mal. Je veux dire, risque de protéger le mal. Et au fond, c'est ce que Abraham cherche à obtenir. Il faut sauver qui? Les criminels de Sodome et de Gomorrhe. Vous vous rappelez ce que c'était Sodome et Gomorrhe dans le récit biblique? Et qui plaide? Et alors on se félicite de la grande vertu du plaidoyer d'Abraham. Mais ce serait la destruction de l'humanité que de se conduire comme Abraham. Et c'est pourquoi Dieu intervient pour lui expliquer que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je pense que c'est clair. Et on entend habituellement exactement le contraire. Okay? Comme si on vient habiliter cette forme de la charité absolue qui protège les pires des criminels. L'intention du récit de la Bible ici est tout à fait inverse, de nous montrer comment Dieu intervient pour donner une leçon de morale, si j'ose dire, à un juste, qui est absolument injuste, d'une vertu absolument authentique, le juste de la charité, mais de la charité est que cela. L'autre vertu qui est nécessaire pour que le fait de la relation humaine soit fondé, c'est la vertu de justice stricte. Et vous entendez bien que ces deux vertus sont radicalement opposées. Non seulement elles sont différentes, mais exclusives l'une de l'autre. Lorsque je suis occupé à l'acte de charité, je viole la conduite de justice. Et lorsque je suis occupé à la conduite de justice, je viole la conduite de charité. Et donc tout se passe comme si le problème moral imposé à l'homme n'a pas de solution. Parce qu'il faut être à la fois l'homme de ces deux vertus pour que le fait humain soit fondé. La charité sauve autrui, mais me condamne. La justice me sauve. Et il y a donc dans la réciprocité des deux vertus à la fois une tâche surhumaine, l'accès à la conscience morale vraie, mais qui nécessitait ce progrès dans l'engendrement à partir d'Abraham. Abraham fonde la vertu de charité. Et le miracle qui apparaît, c'est qu'il a un fils, Isaac, qui lui fonde la vertu opposée de justice. Et ce n'est pas encore Israël. Alors arrive la troisième étape, Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, et vous avez deviné à quel niveau se fait le dépassement de l'antagonisme de ces deux vertus nécessaires, et un dépassement surhumain. Jacob cherche une voie de conduite, et lorsqu'il la trouve, il est nommé Israël, qui lui permet en chaque comportement d'être à la fois fils d'Isaac et fils d'Abraham. C'est-à-dire l'homme de la vertu de charité, comme Abraham, et aussi l'homme de la vertu de justice, comme Isaac, mais pas ou l'un ou l'autre, les deux à la fois. Et c'est pourquoi, c'est là qu'apparaît le judaïsme, dans sa définition comme filiation d'Abraham, c'est pourquoi un peuple va être fondé à partir de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, qui sera Israël et qui attend une seule chose, la révélation de la loi morale authentique. Je vais essayer de faire comprendre, et ce sera ma conclusion, qu'une civilisation abrahamique fondée que sur la vertu d'Abraham n'a pas besoin de loi révélée. Parce qu'on peut fonder, en se basant sur les seules forces de la conscience humaine, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait révélation par Dieu lui-même, une société basée sur la constitution, une constitution de la charité. N'importe quel homme capable d'expérimenter la vertu de charité peut se donner la constitution de la charité. Ce n'est pas la constitution humaine authentique. Nous avons compris pourquoi tout à l'heure. Il manque l'autre dimension du problème moral et les civilisations basées uniquement sur la charité ont été obligées dans l'histoire à se condamner à un dualisme de la ferveur de charité théorique mais de la conduite de l'immoralité. Parce que la réalité ne se ramène pas à un seul de ces deux principes. Est-ce que c'est clair ce que je dis suffisamment clair pour vous? De même que fonder une civilisation sur le principe de justice ne réclame pas une révélation de la loi. Mais fonder une civilisation sur le principe de la vérité morale absolue, c'est-à-dire à la fois juste et bon, ce qui est absolument contradictoire et hors des forces de l'homme. L'homme ne peut être que ou bon ou juste, mais simultanément juste et bon à la fois, c'est surhumain. Et c'est cela, Jacob devenant Israël, Israël recevant la révélation de la loi révélée. Loi révélée que l'islam, tant la chrétienté, reconnaîtront comme loi révélée, mais qu'elles refuseront comme voie du salut parce que ni l'islam ni la chrétienté ne sont hébreux, c'est-à-dire Jacob devenu Israël. Il y a une capacité anthropologique qui est à la base de cette moralité biblique et de la loi morale. Voilà ce que je voulais, si vous voulez, donner comme conclusion. Bien sûr, nous reviendrons dans la série des études de cette semaine sur la notion de l'unité et l'unicité de Dieu selon le monothéisme abrahamique. Mais je voulais mettre l'accent ce soir sur deux autres axes. D'une part, l'axe anthropologique de l'hébreu comme véhicule de l'identité messianique, ainsi décrite, la reconstruction de l'unité humaine hors de l'échec des nations. Et d'autre part, l'accès à la conscience morale authentique qui réclame, par définition, si l'on a compris de quoi l'on parle, qui réclame une loi révélée. Encore une fois, parce que une religion d'Abraham seule n'a pas besoin de loi révélée, n'importe quel homme de bonne foi peut écrire le code de la charité. Pas besoin d'une révélation prophétique pour cela. Les forces philosophiques suffiraient. De même, une civilisation basée uniquement sur la catégorie de rigueur, midatabim, de la justice stricte, et là encore, j'expliquerai très rapidement, une société humaine basée que sur la justice stricte, c'est aussi la fin du monde, parce qu'à la première faute, on est condamné, et qu'il n'y a pas de rattrapage possible. La loi, c'est la loi. Et par conséquent, une société basée uniquement sur le principe de la justice seule, alors que la justice, c'est une vertu authentique, mais si elle est seule, elle est dévastatrice. Et à la première fois, on est damné, pour ne pas dire condamné. Ou il faudrait dire les deux à la fois. Et là aussi, on n'a pas besoin d'une révélation pour cela. N'importe quel homme de bonne foi, suffisamment lucidement puritain, si j'ose dire, peut vous écrire la constitution d'une société basée que sur la justice. Pas besoin de prophétie pour cela. Le verset dit, « Torah, Siva, Lanou, Moshe, Morasha, Kehilat, Yarakot. » La Torah que nous a prescrit Moïse est l'héritage de l'assemblée de Jacob. Et pourquoi pas Isaac et pas Abraham? Je pense qu'on a mieux compris ce soir pourquoi. Bien sûr, avec Jacob, il y a derrière Isaac et Abraham a posteriori. Okay? Mais c'est l'identité Jacob qui va recevoir la loi. Et ni l'identité Abraham, ni l'identité Isaac. L'identité Abraham est préparée à cela. L'identité Isaac est préparée à cela. Mais c'est l'identité Jacob qui est l'Abraham authentique. Et qui, a posteriori, implique aussi le juste selon Isaac et le juste selon Abraham. Mais ce n'est qu'à ce niveau des deux vertus à la fois, au niveau de l'unité de la vérité morale, qui est surhumaine, et qui nécessite une révélation, les mots ayant leur sens simple. Je crois que, vous savez qu'il y a énormément, aujourd'hui, d'ouvrages qui paraissent sur la tradition juive, et, comme l'a signalé M. Dufour, d'ailleurs, tout à l'heure, son introduction était vraiment exhaustive, si j'ose dire, immanentéiste. Mais je crois qu'il faut avoir le courage d'appeler un chat et un sadducéen. Vous avez énormément, si vous voulez, d'intellectuels juifs qui sont en réalité des sadducéens et pas des pharisiens étymologiques, c'est-à-dire qui, même pas comme façon de parler, n'admettent pas que la loi dont nous parlons, nous les juifs de la tradition, est une loi révélée à un niveau de critère au-delà, surhumain, de l'identité humaine. L'homme ne peut pas écrire une telle loi. Parce qu'il ne peut écrire que la loi de charité ou la loi de justice, mais pas la loi de vérité, parce que l'homme ne peut pas être simultanément. Et vous voyez donc comment, etc., comment le projet de l'identité messianique rejoint la révélation à Moïse. D'où le verset, Torah, Siva, Lanou, Moshe, Morasha, Kehila, Yaakov. Et il s'agit de Torah, Minashamayim. Voilà donc de quoi il s'agit. Un niveau anthropologique radicalement, qui met radicalement l'hébreu à part des nations. Et je crois qu'on peut entendre cela vraiment comme hébreu. Et puis d'autre part, une option de la moralité qui dépasse radicalement ce à quoi les nations sont habituées dans la recherche du principe de l'universel, soit la charité, soit la justice. Mais l'unité absolue des deux valeurs qui fait accéder l'humanité à travers Abraham à la conscience morale authentique comme voie du salut. Vous avez compris, je pense, vous-même, à quel point toutes les parties de cette analyse sont liées. La messianité d'Abraham ne peut pas réussir sans cette loi. Mais cette loi ne peut avoir comme véhicule que l'identité anthropologique de Abraham, l'hébreu, et M. Dufour l'a signalé tout à l'heure, à l'échelle individuelle. N'importe quel homme des nations peut rejoindre cette identité, et c'est ce qu'était la promesse à Abraham, « Veni brechou vecha comme ishtachot adama » et se béniront en toi toutes les familles de la terre. Bien, je pense que cette introduction à notre étude a été déjà suffisamment longue. Je voulais quand même que le point de chute de l'analyse soit cette notion de loi révélée, ce qui restitue la dimension hébraïque des origines de notre identité juive.
Il faut quelques instants de silence, je crois, pour après ce... Nous pensions peut-être nous envoler dans la théologie, facile, mais c'est un enseignement, une méthodologie qui nous a été donnée pour situer les aspirations, les finalités, surtout les stratégies. Alors, il y a certainement beaucoup d'éclaircissements à demander et aussi des ponts à faire entre ce panorama qui a été dressé et puis les questions que nous posons de façon peut-être existentielle aussi.
Ça y va. On va se proposer peut-être une heure de clôture, il est presque 10h déjà. Je vous propose trois quarts d'heure d'étude, si vous voulez, ou une demi-heure, comme vous voudrez, mais pas trop plus. Si vous voulez, je vous répondrai à ce mot. Votre question, ce n'est pas tellement une réponse, mais peut-être un complément d'information. Cette question se pose dans le traité de Yevamot, à propos d'un verset de Jérémie. Atem son maraiti, Adam Atem, où Dieu, à travers le prophète Jérémie, s'adresse à Israël pour dire, vous êtes le troupeau de mon pâturage, vous êtes homme. C'est le mot Adam. Et alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans ce traité de Yevamot, dit, Atem kroim Adam. Il y a les manières d'être homme, Ha-Adam, et il y a Adam, c'est-à-dire une manière d'être homme qui consiste à être homme, j'ajoute ça en français, à l'échelle universelle. Alors j'ai essayé, et j'entends bien d'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez déjà là quand je l'ai dit, j'ai dit à quel point on peut vraiment profondément entendre cela en hébreu. Au fond, je suis venu vous parler en français pour vous inviter à étudier la question en hébreu d'une certaine manière. Mais j'entends bien qu'il est extrêmement difficile dans le panorama culturel contemporain de faire entendre ces notions, parce que tous ces problèmes impliquent des confusions, risquent des confusions de vocabulaire radicales. Je ne veux pas du tout dire qu'il y aurait deux identités humaines, l'identité des Goïms et l'identité d'Israël, dans cette Gemara de Yevamot, pas du tout. Mais qu'il y a une manière d'être homme qui est homme à l'indice de l'homme total, et que notre citoyenneté, Israël, je ne parle pas de l'État d'Israël, je parle du peuple d'Israël, comme on parle de la Bible en général, consiste à être homme. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai est venu nous faire entendre. Simplement, quelques petits projecteurs, coups de projecteur d'illustration. Je ne sais pas comment exprimer cela rapidement, parce que ça demande énormément de redécouvertes, de notions, et pas seulement sémantiques, mais profondément anthropologiques. C'est ne serait-ce que la manière d'être homme qui s'appelle juif, et qui peut être indexée, j'y ai fait allusion tout à l'heure, à toute autre manière d'être homme spécifique, tout en restant elle-même. Il y a ici un indice d'être humain assez exceptionnel. Un juif, c'est le juif de l'exil, le dévoile. Un juif peut être juif a l'accès à l'envie de n'importe quelle nation. Je crois que c'est un cas particulier dans l'histoire des hommes. Il y a une manière d'être qui consiste à être Israël, que Rabbi Shimon ben Yochai appelle Adam, à l'indice Adam. Alors que toute autre manière d'être homme, c'est Adam, à l'indice très particulier de tel paysage humain. Et là, ne peut pas changer. Et qu'on ne peut pas changer. Un Français, c'est un Français. Un Allemand, c'est un Allemand. Un Juif pourrait être ou Français ou Allemand. Et multiplier cela à l'infini des manières d'être homme. Voilà un peu ce que veut dire Rabbi Shimon ben Yochai. C'était la distinction qu'avait fait le Rabbin Jaïs dans la citation que je vous ai donnée tout à l'heure, entre une position universaliste, c'est-à-dire place pour toute manière d'être homme, dans l'économie de vie d'une idée messianique pour l'universel humain, et une religion universelle, où une manière d'être homme s'imposait à toutes les autres. Voilà ce que vous voulez un peu, en hébreu, je crois que c'est le mot de Adam entendu en hébreu, qui répondrait à votre question. Bien, y a-t-il une autre question?
Oui.
Oui.
Dans ce même sens, vous avez parlé donc de notre manière d'être homme, d'avoir d'Abraham.
Les Hébreux, oui.
Et vous avez parlé d'une stratégie de messianité.
Oui. Voilà. Oui. Bien, ce que l'histoire sociopolitique nous montre, sans aucune exception, c'est des tentatives d'universel basculant en impérial. C'est la stratégie des hommes pour essayer de résoudre le problème de l'unité humaine. Et finalement, nous savons que ce n'est pas, ce n'est pas une solution. Encore une fois, il n'y a jamais eu d'exception. Pour faire le panorama de tous les grands rêves de l'universel, l'un après l'autre, depuis le temps de Babel, de la tour de Babel, jusqu'au socialisme contemporain, pour voir que chaque fois que ça s'incarne dans la réalité sociopolitique, ça bascule de l'universel à l'impérialisme. Et ça ne signifie pas qu'à l'échelle individuelle, le rêve ne reste pas authentique. Je crois que les Français de la Révolution française ont rêvé authentiquement à l'universel. Mais comme ils ne sont que cette manière d'être homme en particulier, à l'homme à l'indice France, si vous voulez, quelques années après la Première République, c'était l'Empire français. L'histoire de ces humours profonds qui nous montrent bien qu'il y a une cohérence dans le dessin qui est là et qui n'est pas autrement. Et je ne vois pas dans l'histoire universelle, encore une fois, une seule exception à cette règle. Corollairement, j'ajouterai que par rapport au problème de l'identité hébraïque, il y a une deuxième règle qui, elle aussi, n'a pas d'exception. C'est que tous ces universels ont eu place, théoriquement au moins, pour n'importe quelle identité humaine, sauf la juive. Et il n'y a pas d'exception. Il y a donc bien un cas particulier de l'hébreu, même lorsque l'hébreu est clandestin chez le juif. Et j'en arrive à l'étymologie de l'hébreu. Je vous avais cité assez rapidement les deux étymologies du Midrash. Venu de l'autre côté du fleuve, mais vers Anaar, et d'autre part, ce que le Midrash dit, et il en résulte qu'Abraham, l'hébreu, est tout seul d'un côté, et toute l'humanité des nations de l'autre côté. Vous vous rappelez ça? J'ajoute deux autres étymologies, l'une sur laquelle a insisté en particulier M. Neher, dans un des chapitres de son livre sur l'existence juive, et d'autre part, l'autre sur laquelle qu'a indiqué M. Trigano, dans son premier livre, qui s'appelle, je crois, Le récit de la disparue, avant la nouvelle question juive. Okay. Alors, la première, celle de M. Neher, c'est de prendre le verbe, la avour, qui veut dire traverser. Effectivement, l'hébreu traverse le temps des civilisations mortelles, si j'ose dire. C'est pourquoi j'avais indiqué que l'identité hébraïque émerge précisément à un temps de fin d'Orcasdim avec les forces amatoires. Vous vous rappelez de cela? Et puis, il nommait l'hébreu, en français, je parle de missionnaire, le passeur. Celui qui traverse, qui passe au-delà et qui fait passer les autres. Et effectivement, il y a cette fonction d'Abraham, le passeur. On pourrait, le traverseur. On pourrait ainsi traduire le mot de l'expression d'Abraham, l'hébreu. M. Trigano a fait allusion à une autre étymologie, qui est tout autant authentique d'ailleurs. Mais arriver, ça veut dire de l'autre côté, la ravour, ça veut dire traverser, mais vous avez le mot de roubar, qui signifie l'embryon. C'est-à-dire tout se passe comme si, à chaque époque de grande civilisation, l'identité hébraïque est littéralement en gestation dans l'humanité universelle, exactement comme un embryon dans le sein de sa mère. Et qu'arrive le moment de la naissance, le moment de l'accouchement, c'est précisément ces termes que le Midrash parle de la sortie d'Égypte. C'est un accouchement de l'identité hébreu du dedans de l'universel humain. Et probablement, nous sommes de nouveau renvoyés à une époque analogue. Et tout se passe comme si cette identité hébraïque, qui était en gestation dans sa propre manière araméenne, qui de notre temps s'appelle la juive, est en train de naître en tant qu'hébraïque. Je ne fais aucune allusion d'ordre politique, mais c'est simplement un mouvement de l'histoire qui nous apparaît ici comme une sorte de dessin, que l'identité hébraïque est en gestation. Et elle apparaît en tant qu'hébreu au moment de l'accouchement. Alors l'accouchement est parfois très difficile. C'est ce qu'on appelle Khevleleda, du temps mécanique, les douleurs de l'enfantement. Probablement, nous sommes en un temps de ce genre. Voilà donc un peu ce que j'entends par cette autre manière d'être homme. Oui, ce qu'il y a en arrière-plan comme problème passionnel,